je vais vous représenter Béatrice Dufour, hein, qui est donc mère de 6 enfants, dont 3 sont adoptés. Elle nous a expliqué son histoire. Elle est membre de la communauté de l'Emmanuel et elle prêche des retraites sur la prière à l'école des saints du Carmel, mais aussi elle donne des enseignements sur la vocation de la femme, notamment dans les écoles de couple, dans les groupes de prière des mères et aussi dans des classes de terminale en France. Elle est française et elle vient de la Drôme, près de chez Marthe Robin. Voilà. Et aujourd'hui, le titre de ton enseignement, c'est
La femme fille du père. Et puis on essaiera d'avancer aussi, et on abordera probablement, si je ne suis pas trop bavarde, l'épouse, la femme épouse. Voilà, alors nous disions hier que nous avions tous une vocation spécifique, nous avons une vocation spécifique, originale, il n'y a pas de copier-coller, et ça va être à chacun de tracer son chemin, d'accepter de se laisser guérir, de se laisser regarder par le Seigneur pour guérir dans notre féminité. Nous avons vu hier les écueils du féminisme actuel, hein, qui veut tout chambouler, toute l'identité de la femme et de l'homme sont chamboulés. Et ça, c'est très grave parce que ça nous fait perdre la boussole, quoi, hein. On est perdu, on ne sait plus où on en est, on porte de multiples casquettes, mais on a besoin de retrouver vraiment quel est le plan de Dieu, son plan d'amour sur l'homme, sur la femme, qu'est-ce qu'il a voulu. Alors, on a vu tous ces écueils du féminisme radical, avec toutes les lois qui sont votées aujourd'hui, dont le mariage pour tous. Et on a vu, après, on a mis un coup de projecteur sur la Genèse. Venez devant, la place. Sur la Genèse, et pour voir un petit peu qu'est-ce que Dieu avait dans le cœur quand il a créé l'homme et la femme. Et c'est là qu'on retrouve tout le sens de notre vocation. Et il faut vraiment tous qu'on réétudie tout ça, qu'on réentende ces paroles qu'on a déjà entendues, que vous connaissiez. Et en même temps, aujourd'hui, c'est la seule chose, seule arme que nous avons, hein, pour résister devant cette décadence qui nous arrive, cette guerre frontale de ces gens qui nient l'amour, qui ont nié le Père, qui nient la filiation, qui nient toutes ces choses-là. Alors on est revenu aux origines. Donc on a regardé la Genèse au chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 2, donc on a vu les deux récits qui nous sont faits de la création, donc je ne vais pas reprendre, mais on va regarder maintenant les conséquences. Après, qu'est-ce qui s'est passé une fois que Dieu a créé l'homme et la femme dans une complémentarité extraordinaire, hein, nous sommes faits pour être vraiment dans la complémentarité. On avait vu avec cette statue, nous avions écrit de visage à visage, Dieu a mis un visage en face de l'homme qui a été créé premier, il a mis le visage de la femme, donc elle est sa partenaire fraternelle, elle est d'abord sa sœur en humanité avant d'être une partenaire sexuelle. La femme a été mise comme celle qui lui permettait de communiquer son amour, qui permet à l'homme de communiquer son amour. Donc ils ont été faits tous les deux dans la complémentarité, pour porter du fruit, une fécondité. Et alors, tout ça est très bien, mais voilà, il s'est passé la chute. Vous connaissez évidemment ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et on va voir à travers ça où s'enracine le péché de la femme un peu. Alors, accrochez-vous bien. Parce que vous savez que c'est une grande merveille quand on peut découvrir son péché, mais c'est une grâce immense. Tout le problème, c'est d'être aveuglé, et du coup, on ne sait pas comment s'en sortir. Et le jour où le Seigneur nous montre notre péché, eh bien, on peut vraiment avancer, puisqu'il est là, qu'il a tout donné, et qu'il veut nous libérer de toute entrave du péché. Il a tout payé le prix. Donc, c'est pas triste de découvrir notre péché. Alors, Adam et Ève donc, vont connaître une triple division. Devant cet amour offert, hein, Dieu avait comblé Adam et Ève de tout. Il avait tout donné, sauf, vous savez, à un endroit, il a dit, d'abord, vous ne toucherez pas à l'arbre, à cet arbre-là, parce que c'est l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Et comme nous sommes des créatures et qu'on évolue dans le temps, eh bien, il allait nous donner les choses au fur et à mesure, comme elles auraient été bonnes dans le temps. Mais nous, on s'est laissé séduire par autre chose, par le tentateur qui a débarqué. Et devant cet amour offert, donc Dieu attendait une réponse d'amour. Hein, l'homme et la femme avaient la possibilité de dire oui ou de dire non, hein, d'adhérer, de dire bah, tout ce plan, tout ce que tu nous offres, eh bien, j'adhère, je fais confiance. Et je marche dans cette alliance, quoi, dans cette bienveillance qui se présentait à nous en nous donnant la terre si belle, toute la fécondité. Voilà, ça, Dieu attendait simplement une réponse d'amour, notre oui, puisqu'il nous a créés libres. Bon. Alors, donc, juste, il y avait cette limite vitale à ne pas franchir, hein, représentée par le fruit défendu. Donc, Ève, malheureusement, va être tentée par le tentateur, le diviseur, hein, une créature angélique bien réelle, hein, le diable, hein, qui a une existence bien réelle, comme en témoigne Jésus à bien des reprises. Donc, le tentateur s'approche de la femme, et c'est intéressant, donc, il aurait pu aller vers l'homme, il va vers la femme, hein, parce qu'il sait qu'elle est plus spirituelle, qu'elle a soif de spirituel, donc ça nous dit déjà quelque chose. Elle est plus sensible au spirituel. Et puis, il se dit aussi, si je peux avoir la femme, l'homme viendra avec. Hein. Donc, Ève va écouter le tentateur et pourtant, il lui dit des mensonges. Quel est le mensonge? Il lui dit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin. Il n'a jamais dit ça. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. Vous voyez, comme il modifie la parole, il est menteur dès l'origine et il ment. Alors, la femme, elle aurait bien dû réaliser qu'il mentait. Ben non. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, c'est important de comprendre un point de faiblesse, une curiosité. Vous voyez, elle a eu la curiosité d'aller jusqu'au bout. Elle aurait dû l'arrêter, cet homme, en disant, ben ça va, vous dites que des bêtises, vous mentez, on ne peut pas écouter un homme qui ment. Et non, elle a une mauvaise curiosité. Elle s'est laissée convaincre de quoi? Elle s'est laissée convaincre que Dieu lui cachait quelque chose. Il est malin, il dit, mais non, non, il n'a pas dit Dieu, etc. Non, non, non. Voilà, vous serez comme des dieux. Si... Donc, il vous a caché quelque chose. Convaincre que si elle voulait tirer le meilleur parti de sa vie, elle devait prendre les choses en main. Ah, ça nous parle de quelque chose pour nous, les femmes. Quelque chose qui est instinctif chez la femme, de prendre les choses en main et puis tout. Alors, ça peut être bon, mais ça peut être aussi mauvais. Donc c'est d'un grand réalisme. Vous voyez, on a beaucoup de peine, nous les femmes, à nous laisser conduire, à lâcher prise. On veut avoir la maîtrise sur les choses. Voilà. Hein. Si elle voulait tirer le meilleur parti de sa vie, elle devait prendre les choses en main. Voilà. Elle n'a pas fait confiance à Dieu. Elle dit, ce sera mieux si moi, je vais cette affaire-là, je vais regarder cette affaire-là. Alors, du coup, au lieu d'être le soutien d'Adam, eh bien, et l'inviter à la vie, parce que c'est la femme, elle doit inviter à la vie, ben, elle l'invite à la mort. Et Adam, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? C'est intéressant, ça aussi. Hein, il est tout près d'elle et il ne fait rien, rien, rien. Hein, il ne prend aucun risque. Alors, on retrouve un peu les hommes. Hein, il cède à la paralysie, hein, et il opte pour la passivité. Or, Dieu lui avait dit, lui avait confié la loi. C'était l'homme qui était détenteur, qui devait rester dans cette obéissance à la loi. Et c'était à lui d'intervenir aussi, de dire non, Dieu n'a pas dit ça. Il aurait dit ça à la femme. Bon, la femme n'aurait pas été plus loin. Il n'a rien dit, il a laissé faire. Vous voyez, chacun, on a bien notre part de responsabilité. Voilà, et il fuit le risque, il évite le contact. Hein. Voilà, il ne joue pas son rôle de protection. Vous voyez, là, ici, on voit l'attitude de l'homme, quoi, qui doit aussi protéger la femme. Hein. Voilà, la femme a été mise en vis-à-vis de lui, mais aussi lui, il doit garder ce rôle de protecteur. On a besoin de l'homme et il faut redonner aux hommes aussi leur place de protecteur. Et qu'est-ce qu'on fait pour cela? Si on veut nous tout diriger, et l'homme est malheureux aujourd'hui, hein, les confidences des hommes que je peux avoir sont terrifiantes. On ne sait plus quoi apporter à la femme, on ne sait plus quelle est notre place. Alors il se féminise, il croit qu'il faut qu'il soit comme des filles. Or nous, les femmes, on attend quand même d'un homme qu'il soit justement, qu'il remplisse son rôle de protecteur, de l'autorité pour les enfants, qu'il soit un peu, qu'il préside un petit peu dans la famille, qu'il soit capable à des moments de dire non, de mettre des limites. On attend ça de lui. Et combien de femmes souffrent de maris qui ont perdu complètement cette autorité, même l'ont pas reçue probablement. Il y a toute une dégénérescence, je dirais, depuis quelques années, où on a voulu tuer le père, mais on va y venir. Voilà, donc, Ève ne prend pas conseil auprès d'Adam, donc elle aurait pu prendre conseil, elle veut se débrouiller sans lui pour répondre toute seule, elle veut déjà être indépendante. Ça aussi, hein, les femmes. Alors que Dieu seul est indépendant. Et ça la met en danger. Parce qu'à deux, on est plus fort. Et voilà que très vite, donc, elle met en doute la parole de Dieu sur la suggestion de cet inconnu. Et elle désire capter, se dire, ah, je vais prendre ce fruit-là, je vais prendre de cette connaissance, Hein, voilà. Et comme ça, je serai plus intelligente, je vais gagner en intelligence. Elle veut capter au lieu de recevoir, de rester simplement dans la réceptivité. Dieu aurait tout donné dans le temps qui aurait été bon. Et elle capte, d'accord. Elle s'en remet également à ses sens. On dit, elle vit que l'arbre était bon à manger. La femme, attention, les sens, l'imagination. Deux traits encore très féminins. Voilà, elle regarde l'extérieur, s'en remet à ses sens et son imagination, et elle pose l'acte que Dieu défendait par amour. C'était par amour que Dieu avait mis cet interdit. Donc elle désire l'intelligence, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas être intelligente, mais elle désire l'intelligence en premier lieu, et non l'amour, hein, en captant et en s'opposant à Dieu. Voilà. Alors là, ben, ça va entraîner le mari dans la désolidarisation. Ils vont connaître effectivement le bien et le mal, alors que Dieu ne voulait qu'ils connaissent que le bien. Et on aurait pu connaître que le bien en restant dans cette communion avec Dieu, dans cette obéissance, dans cette dépendance de Dieu, simplement. Voilà, donc le péché originel est venu entraver gravement le projet de Dieu. Ça va créer une triple division. Alors, on va être divisé, c'est pour ça qu'on n'est pas bien, hein, qu'on est toujours tous un mal un peu existentiel, parce qu'on se sent en dualité, on ne se sent pas bien. Alors, désolidarisation de Dieu, on s'est coupé de l'intimité de Dieu, on commence à avoir peur de lui. Désolidarisation avec soi-même. On est tiraillé en nous-mêmes entre le bien et le mal, on a perdu la paix. Et puis, troisième division, entre eux, ils sont désolidarisés l'un de l'autre, ils commencent à dire « il faut se protéger, je suis nu », etc. Voilà. Et on commence à avoir des rivalités, à avoir peur de l'autre, vous voyez, tout un tas de choses qui sont faussées. Alors les conséquences, et puis la mort va devenir un passage obligé. Ils connaîtront désormais la souffrance et la peine. Alors, conséquence de ces divisions pour l'homme et la femme, Ève déchue, très important, refuse d'être fragile. Elle ne veut pas de sa fragilité, c'est elle qui a décidé, madame, hein, de se donner le bonheur. Et donc, elle a beaucoup de peine à... elle cherche à dominer, elle cherche à contrôler, elle refuse sa vulnérabilité, hein, à cause de son manque de confiance en Dieu. Elle a perdu la confiance en Dieu. Et donc tout le travail qu'on aura à faire, nous, ça va être d'avoir confiance en Dieu, de s'abandonner à Dieu. C'est quelque chose qui ne nous est pas du tout naturel. Hein, voilà. Et puis on va chercher aussi la domination par la séduction. On va conduire à nous-mêmes, on va s'idolâtrer, on va conduire les autres à nous-mêmes, on va essayer de séduire. Hein, et au lieu de conduire les autres, de les conduire à Dieu, hein, ou aux autres, eh bien on va les conduire à nous-mêmes. On va chercher à attirer l'attention, être la plus belle, la plus intelligente. La femme, elle a besoin d'être captivante et d'attirer beaucoup à elle. Voilà. Et pour l'homme, la maladie. Alors, du coup, on va souffrir de quoi? De solitude. Puisqu'on est vraiment coupé de Dieu. Hein, et donc, on a cette solitude existentielle très très forte chez la femme. Et on va souffrir de la domination masculine aussi, bien sûr. Voilà. Et pour l'homme, la malédiction, ça va être la futilité et l'échec. Il a été mis en échec, là. Et toute sa vie, il va courir après ça, il faut faire le cacou, et il refuse, cacou ça veut dire il faut faire le malin, et l'homme, il a cette propension, quoi. Depuis tout petit, le petit garçon, regarde papa, je suis plus fort que toi, ils veulent toujours en remontrer, quoi, hein, en remontrer, parce qu'ils ont en eux-mêmes cet échec du départ, et pour eux ça les marque profondément, et puis la futilité, vous voyez, alors, comme il n'a pas su s'intéresser aux choses importantes, ben voilà. Alors du coup, au lieu d'être le gardien de la loi, de prendre cette position que Dieu lui donnait, eh ben voilà, il va rester des heures sur Internet. Souvent, on se plaint de nos hommes qui ont des vies. S'il n'y a pas la grâce de Dieu qui intervient dans leur vie, ils peuvent avoir des vies extrêmement matérialistes ou tout orientées vers le sport. Il n'y a que le foot, il n'y a que ci, il n'y a que là. Et ça nous fait souffrir. Hein. Voilà. Donc l'homme aura tout un travail à faire aussi. Puis alors pour le couple, ben, il y aura évidemment, j'ai dit, un sens erroné de l'égalité, une fausse idée de la liberté. Entrez. Il y a encore des clientes. Venez vite, il y a encore des places. Voilà. Alors, je disais donc, vous voyez que hier, que la guérison de notre féminité, de tous ces traits, on va pouvoir guérir toutes. Mais il nous faudra abandonner l'effort de se sauver soi-même. Vous voyez, c'est ça qui est à travailler chez nous. Parce que pendant des années, on veut se donner le bonheur. C'est vraiment ça que j'ai fait pendant 10 ans. Tous azimuts, prêts à investir de l'argent, n'importe quoi, mais me donner le bonheur. Hein, et on va y arriver, et on est déterminé. Voilà, puis on prend des tas de routes qui sont des fausses routes et des cul-de-sac, et on se casse la figure, on se ramasse et on recommence. Voilà. Et Dieu vient à nous et nous demande, veux-tu me laisser agir en toi ? Une seule chose, pour mettre en marche le processus de guérison de notre cœur féminin, c'est regarder Marie pour donner un oui sans réserve à ce que Dieu veut faire de notre vie. Chacune, nous avons des vies différentes. Nous avons souvent, je disais hier, nos plans ont été contrecarrés, nos plans de bonheur, nos projections de bonheur ont été contrecarrées. Hein, et il va falloir redonner ce oui. Hein, je n'ai pas réussi à me donner le bonheur. Ma vie n'a plus de sens, c'est ce que j'ai dit il y a quelques années. Voilà, et on va l'inviter à entrer en nous. Voilà, alors ne cherchons pas à sauver les apparences. Vous voyez, une session comme celle-là, c'est vraiment un lieu où on peut se lâcher. On peut laisser monter les émotions, pleurer, vraiment, sans qu'il y ait, ça ne choque personne. Au contraire, on sent que ceux qui pleurent, ben, ils vivent des choses importantes. Et Dieu vient les toucher dans leur cœur. Et ne pas hésiter à laisser monter voilà, des douleurs qui peuvent revenir, de notre péché, de ces fausses routes qu'on a prises, vous voyez. Et laisser Dieu se conduire en paix avec nous. Alors, là justement, je vais en venir à ça. Voilà, alors donc il y a eu ce péché originel, et qu'est-ce qui bien sûr vient nous réhabiliter? C'est Jésus, hein. Bon, j'en parlerai dans l'enseignement samedi, mais donc c'est par la grâce de notre baptême que nous pouvons être complètement réconciliés et en nous mettant sous le regard du Père. C'est vraiment ça. Première chose, ça va être de réaliser que nous avons un Père et que nous sommes sa fille. Avant d'être épouse et mère, nous sommes filles du Père. Notre développement émotionnel est profondément marqué, Yves Boulevin va le dire sûrement dans son truc sur la psychologie, son carrefour sur la psychologie, est profondément marqué, notre développement émotionnel est profondément marqué par la relation avec le Père. Une bonne relation au Père va engendrer une confiance en soi, vous voyez, une bonne intégration dans la société. Voilà. Le mal fondamental justement de notre civilisation occidentale depuis quelques siècles, c'est le rejet du Père. Hein. Ça, c'est terrible, terrible. Hein, avec Nietzsche, avec Freud, allez, on balance le Père. Le Père est vu comme celui qui donne des contraintes. La loi est vue comme l'autorité est ressentie comme une domination. Hein. Le devoir d'État comme une aliénation. Et le devoir comme une servitude. Voilà. Donc il a fallu tuer le Père, qui était symbole un peu de toutes ces contraintes, et on lui a demandé d'être un papa poule ou un papa copain, voilà, et qui ne fait pas du tout notre affaire, parce que nos enfants, du coup, sans cette belle autorité du Père, eh ben ça part en live, quoi. Voilà, en rejetant le paternalisme, notre génération s'est coupée de ce qui pouvait la faire grandir, de ce qui pouvait la faire devenir adulte, hein, et au lieu de cela, eh ben, on voit bien... Il y a toute une génération qui est une véritable... Ils sont tous adolescents, quoi. Ils restent adolescents, ils ne sont pas mûrs, ils n'arrivent pas à s'engager. Et de plus en plus, hein, on voit dans les jeunes qui arrivent. Pas d'engagement, pas de prise de risque. Voilà. Alors le défi de notre temps est de revenir au Père. Hein, on a vraiment... puisqu'on remet en cause aujourd'hui la question de la filiation, hein, tous nés d'un père et d'une mère, il y a pour nous un appel à redécouvrir l'universalité de notre statut filial, notre fraternité filiale universelle. Quoi de plus universel que la paternité? Même ça, c'est mis en cause. Bon. Voilà. Donc, notre relation avec le Père est fondatrice de notre véritable personnalité. Donc, c'est en se mettant sous le regard du Père que nous allons pouvoir guérir si nous avons eu des blessures. Parce que forcément, on n'a pas eu un Père idéal les uns et les autres. Et donc, certaines d'entre vous ont pu être fortement blessées par l'absence de Père. Pas de père du tout, ou un père qui exerçait une autorité qui nous a détruits, etc. Alors comment ces hommes et ces femmes qui ont tellement été blessés, comme on a entendu hier avec René Luc, comment vont-ils pouvoir avoir une vie féconde et se réconcilier comme ça avec leurs parents? Je pense à Tim Guénard, qui lui aussi avait été attaché à un arbre à l'âge de 3 ans par sa mère, et sa mère se barrait à 3 ans. Et son père, alcoolique, s'en est occupé, mais avec énormément de violence. Et il a dû faire être hospitalisé presque un an à cause de coups de blessure, parce que son père l'a balancé dans l'escalier de la cave, etc. Voilà. Donc des enfants qui ont tellement souffert, qui n'ont tenu que par la haine pendant des années, et parce qu'ils voulaient tuer le père. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce soit des saints qui parcourent le monde pour redonner du moral à tout le monde? Et Tim Guénard, que je connais bien, il est apiculteur, et nous sommes apiculteurs. Et puis pour différentes raisons, je les rencontrais. Et il me disait, mais tu vois, les jeunes, parce qu'il accueille beaucoup de jeunes chez lui, et il dit, voilà, le chemin que font ces jeunes, c'est quoi? Il me dit, quand ils partent de chez moi, ils se sont réconciliés avec le père. Lui, il a fait le chemin de se réconcilier avec le père. Et il a dit, quand les jeunes sont réconciliés avec leur père, eh ben, tout se déroule, il y a un tapis qui se déroule à nouveau, ils trouvent un boulot, etc., ils trouvent leur place dans la société. Donc il dit, tout mon travail. Et c'est ça qui est beau, c'est que dans la vie, nous avons été blessés à des endroits. Et c'est par là où nous avons été blessés que nous allons pouvoir porter du fruit. Et ce Tim, qui lui a eu cette énorme blessure du père, comme René Luc, tous ces gens-là, oui, c'est après, ils vont porter un fruit incroyable, hein, à partir de ces blessures. Ça, c'est une espérance formidable pour chacun de nous. Parce que moi, pendant longtemps, on se dit, ben, avec toutes les blessures que j'ai eues, si j'avais été comme ci, si j'avais pas eu telle blessure, je serais une femme plus rayonnante, plus ci, plus là. Ben, pas du tout. C'est à partir de tes blessures, laisse-toi visiter par le Seigneur, et le Seigneur va rendre ces blessures glorieuses. C'est comme une poterie qui est toute cassée, mais si vous vous laissez visiter, ben, il y aura de la lumière de Dieu, la lumière divine va entrer dans cette poterie, hein, et à ce moment-là, ben, par toutes les petites fentes qu'on va voir de cette poterie, elle va être très belle, cette poterie, elle va avoir un relief tout à fait particulier. Et la guérison, c'est pas forcément d'être un autre être que ce que nous sommes, mais c'est beaucoup plus, je l'ai vécu vraiment comme ça, comme l'acceptation profonde de tout ce qui nous est arrivé, ne plus regarder ce passé comme quelque chose qu'on aurait voulu autre, il a été comme ça. C'est en fait notre histoire d'amour. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça un jour, dans une retraite. J'ai vraiment senti que c'était mon histoire qui me liait à Dieu, mon histoire sainte, qui me liait à Dieu pour l'éternité. Toute l'éternité, Dieu m'a visité, Dieu a été tout le temps présent. Chaque fois que nous avons souffert, que ce soit à la naissance, après la naissance, toutes les blessures que nous avons pu avoir, Dieu était présent. L'enfant Jésus, Marie, il y a toujours une présence divine à nos côtés. Jamais nous n'avons été seuls. Nous, malheureusement, on n'est pas ouvert au divin, hein, et donc on n'a pas vécu ça avec l'ouverture maximum de la grâce. Donc aujourd'hui, simplement, il faut accepter d'être revisité, que ce passé soit revisité, en sachant que Dieu était là. Il était là au moment où je perdais mon petit frère, au moment où je vivais tel drame. Dieu était là. Je n'ai jamais été abandonnée. Et quand on a compris ça, alors on est guéri. Vous voyez, la guérison pour moi, c'est ça, c'est comprendre que Dieu a toujours été là, qu'il ne m'a jamais abandonné. Et donc, avec ce passé tel qu'il a été, eh bien, il va se servir de nous pour une fécondité, mais particulière justement, ça fait partie de notre vocation. Hein. On ne va pas avoir la même fécondité si on a eu tel et tel type de blessure. On va rayonner par les blessures qu'on a eues, ça j'en suis persuadée. Et je disais hier à ceux qui étaient là, mais qu'on est venu me demander, moi, de prêcher des retraites sur la femme, alors que j'étais profondément blessée. Dès la conception, j'ai été blessée dans ma féminité. Hein, complètement rejetée par ma mère, qui ne voulait que des garçons. J'étais la cinquième fille. Et voilà, et ben ça m'a configurée pendant des années, effectivement. J'ai rentré ma féminité complètement, mais je me suis frustrée, mais forcée pour plaire à ma mère. Hein, mais ma véritable féminité était toujours là, mais voilà, il a fallu que ce soit un homme qui m'aime et qui permette que cette féminité ressorte, quoi. Et aujourd'hui, on vient me chercher, il y a 10 ans, en me disant, vous allez prêcher des retraites pour femmes. Je dis, je rêve. Je rêve. Et vraiment, j'ai pas voulu au départ, parce que j'ai dit, non, moi, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Eh bien, si, justement. Hein, et voilà. Alors, c'est mystérieux, vous voyez. Donc, par là où on a été blessé, c'est par là peut-être qu'on peut plus aider les autres, hein, parce qu'on a été pauvres, et qu'on est des créatures pauvres, petites, blessées, mais visitées par la grâce. Et c'est ça qui nous intéresse tous, c'est savoir comment la grâce, elle a agi dans ta vie. Toute l'éternité, on se racontera ça les unes les autres, et on sera émerveillés de voir comment la grâce de Dieu a agi dans chacune de nos vies. Je vous donne le témoignage d'une petite religieuse, pour vous donner l'espérance, même si vous avez plus de 70 ans. Alors là, elle n'avait pas 70 ans, elle avait 60 ans. Une petite religieuse qui était très éteinte dans son couvent, pas beaucoup de personnalité. Et un jour, il y a une visite canonique, et donc un prêtre vient, et interroge la, la responsable, la prieure, et ils prennent toutes les sœurs les unes après les autres pour parler de chacune d'elles, parce qu'il vient justement pour voir si tout le monde se sent bien, tout ça. Et cette petite religieuse dont je vous parlais, elle passe dans le couloir à un moment donné, devant l'endroit où ce prêtre était là avec sa prieure, au moment pile où la prieure, le prêtre dit « Ah mais au fait, vous ne m'avez pas parlé de sœur untel. » Oh, réponse de la prieure, celle-là, elle ne compte pas. Alors, elle a entendu ça, mais je ne vais pas vous dire, à 60 ans, vous avez donné votre vie à Dieu, vous êtes dans ce couvent, celle-là, elle ne compte pas. Vous imaginez la malédiction, la parole de malédiction qui peut... Alors ça, effectivement, tout réouvert en elle, hein, tous ces complexes, tout ça, et elle a eu une tentation vraiment de désespoir, et le lendemain, elle s'est mise sous le regard du Père, et elle s'est entendue dire, elle a entendu cette phrase, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Et à l'instant même, elle a été guérie de tous ces complexes. Elle est morte 3 ans plus tard, mais elle est morte en odeur de sainteté, m'a-t-on dit. Voilà. Et je pense donc qu'il y a des séances de rattrapage toute la vie. Ça, c'est une grande consolation aussi. Hein, parce qu'on ne fait pas tout bien dans la vie. Et avec nos enfants, on a fait plein de bêtises, plein de gaffes. Mais il y a des séances de rattrapage tout le temps. Voilà. Alors, voilà, c'est pas triste. Ça, je ne vais peut-être pas dire. Bon. Donc, voilà. Je dirais que souvent, il y a des pièges pour échapper au malaise qu'on peut avoir aussi. Je voudrais dire un tout petit mot là-dessus. Pour échapper à ces malaises, on fait soit la politique de l'autruche, alors on a une vie hyperactive, et voilà, il faut remplir l'agenda le plus possible, mais au fond, il y a une déprime latente qui est là. Ou bien alors, ça va être le nombrilisme, on n'en finit plus de s'introspecter, de se regarder. Et comme sur la place publique, il nous est offert énormément de choses aujourd'hui pour se sentir bien dans sa peau, toutes sortes de clubs, de cercles, de machins. Hein, nous, en France, on veut-tu, en voilà. Il y en a toujours des nouveaux. Alors, je vous invite à la plus grande prudence par rapport à toutes ces choses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait pas une réaction importante par rapport au corps. Hein, on sort du jansénisme, et donc le corps était vu comme quelque chose qui allait empêcher l'âme de s'épanouir. Enfin, voilà, il y avait une séparation entre le corps et l'esprit. Mais il y a des très très gros pièges derrière ce fait de parce que ces thérapies, je dirais ces clubs, toutes ces choses qui sont proposées, ont la prétention de vouloir combler cette soif d'infini qu'on a toutes les femmes. Nous, on a une soif folle d'amour, on est faite pour l'amour, on est faite pour être capter l'amour, le réceptionner et le redonner, hein, transmettre la vie comme ça, donc tout le temps, être dans cette transmission. Et là, ces thérapies, ces choses-là vont nous faire croire que le bonheur va être au bout de ces techniques qui sont de l'ordre du fini. Alors que nous, notre soif, elle est infinie. Donc si on avait l'honnêteté de nous dire, bon, bah, écoutez, on va vous faire vous sentir mieux, on a telle petite technique, etc., il faut faire tel et tel mouvement, tel et tel machin, telle et telle chose. Bon, mais voilà, c'est qu'une technique, voilà, si ça peut vous aider un peu. Mais non, mais derrière, souvent, il y a des philosophies qui viennent se greffer dessus. Et on va vous induire que ce que vous avez... Moi, j'ai vécu des choses comme ça. Ce que vous avez vécu, votre spiritualité, c'est de l'infantilisme. Il faut vous débarrasser de ça. Hein. C'est ces techniques-là qui vont vous apporter le bonheur. Alors moi, je vous invite toutes, quand vous avez des propositions de ce genre, à aller chercher sur Internet, ben justement avec Jacques Verlaine, par exemple, avec le père Verlaine, vous allez avoir toutes les explications. Mais d'où viennent à l'origine, hein, le fond, celui qui a créé cette chose-là, qu'est-ce qu'il avait derrière la tête et d'où ça vient? Puis on s'aperçoit très souvent que c'est lié à de l'ésotérisme, à un mélange incroyable. Donc soyons très fermes là-dessus, parce que beaucoup de gens se sont fait avoir, et moi aussi.
Tu peux juste donner des exemples parce que
Oui, par exemple, bon, moi j'avais fait par exemple des. Je sais plus
comment
ça s'appelait.
Le yoga,
des riches et des trucs comme ça.
Alors, moi, le yoga, j'en ai fait un peu, effectivement. Moi, je vais vous dire que j'ai quitté le jour où, parce que mon maître yogi, commencer à y mettre de la philosophie aussi. Hein, quand c'est qu'une gymnastique, c'est pas méchant, en fait, de la relaxation et tout ça. Mais il l'a bien dit, mais quand c'est, quand il y a autre chose derrière. Et moi, par exemple, ce qui m'a dégoûtée, mais alors je suis partie en courant, j'ai adopté des enfants handicapés. Et donc, une de mes filles qui est polio, qui avait eu la polio, avec un sourire comme ça, il me dit un jour, mais ta fille, c'est parce que dans une autre vie, elle a été sensuelle, elle a été trop sensuelle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle paye sa sensualité. Ah, j'ai dit, mon petit, tu ne me reverras plus. Je suis partie. Voilà. Je veux dire, méfions-nous de toutes les philosophies. D'autres choses, j'ai fait des choses avec le corps, ça s'appelait la gestalt-thérapie, et c'était avec des... retrouver les nœuds qu'on peut avoir dans le corps. Alors on peut faire des mouvements et tout ça, et donc il y a effectivement des choses qui se décoincent, hein, et j'ai pu faire des cauchemars où des blessures sont remontées effectivement, mais là c'était tout, c'était pas la technique qui était mauvaise, c'était les gens qui pratiquaient ça et qui eux avaient une philosophie qu'ils ont induite justement en me disant par rapport à mon père, me disant mais ton père on l'a pas invité ici parce que j'avais une blessure par exemple, mais j'en avais pas 50, j'en avais une blessure par rapport à mon émotivité, mon père m'avait blessé. Mais c'est un homme que j'admirais beaucoup, qui m'a énormément aimé, bien plus que ma mère. J'étais très accrochée à lui. Mais bon, lui, il n'a pas eu de mère, sa mère est morte quand il était jeune. Ils étaient très enfants, il a été élevé par de bonnes et tout ça. Et donc, voilà, il m'avait blessé. Et quand j'arrivais à ce stage, par exemple, eh bien, ils m'ont induit, parce que quand vous avez des guérisons en plus, vous écoutez la personne. Et ils ont induit, ton père, t'en as rien à foutre. Et je suis sortie de là, j'avais une indifférence totale par rapport à mon père. Et je suis rentrée, je me souviens, mon père qui est venu me voir. Je l'ai regardé, mais j'avais plus aucun amour pour lui. Alors, on va vous dire que c'est la guérison, ça. Moi, c'est pas la guérison, c'est pas du tout le pardon, c'est la sainte, l'indifférence totale. Cet homme, il n'en a rien à foutre. Il est, tu vois, le genre de danger. Et mon père a été bouleversé. J'ai cru qu'après, j'ai eu peur, il me dit peut-être qu'il va avoir un accident. Il était venu me voir en moto, je crois. Et je me suis dit, pourvu qu'il n'ait pas un accident, parce que je l'ai vu hors de lui, de me voir comme ça. C'est la première fois qu'il voyait que sa fille ne l'aimait plus. Je n'avais plus aucun amour pour lui. Alors qu'après, plus tard, eh bien, au pied de la croix, dans des retraites, qui n'étaient pas forcément des retraites de guérison, mais des écoles de prière que j'avais fait, je me suis retrouvée au pied de la croix, et là, Marie, la Vierge Marie, m'a fait entrer dans le regard de Jésus pour les bourreaux, pour ceux qui souffrent. Parce que je suis arrivée après à ces retraites avec cette même blessure par rapport à mon père, qui n'était toujours pas guéri. Et alors au début, je me suis sentie vraiment aimée par Jésus sur la croix, parce que je souffrais, et que Jésus, il aime ceux qui souffrent. Et puis tout doucement, Marie, je sentais bien que c'était la Vierge Marie, m'a fait entrer dans le regard de Jésus, non plus pour ceux qui souffrent, mais pour les bourreaux, pour ceux qui font souffrir. Mais j'ai été complètement retournée par ça. C'est craquant, quoi. Qu'il aime ceux qui fassent souffrir, oui, mais qui souffrent, oui, mais pas ceux qui font souffrir. Et si Jésus a le même amour pour les bourreaux, j'ai reçu ça dans mon cœur à l'adoration le soir avant d'aller me coucher. Dans la nuit, je suis réveillée par des souvenirs de mon enfance. Mon père, j'étais sur les genoux de mon père. Et moi, j'avais une émotivité très forte. Et mon père se jouait complètement de ça. Bon, c'est pas énorme comme blessure, mais moi, ça m'avait complètement bloqué. C'est-à-dire qu'il chantait une chanson. J'avais déjà des blessures d'abandon. Et donc, il chantait une chanson d'un petit chien qui... Combien pour ce chien, c'est une chanson, dans la vitrine, ce joli petit chien noir et blanc. Et c'est un petit chien qui avait été abandonné dans une vitrine. Et alors, moi, rien que un chien abandonné dans la vitrine, ça réveillait ma blessure d'abandon. Hein, j'ai eu plusieurs blessures d'abandon. Et je me mettais à pleurer. Et mon père, il était fou de joie de me voir pleurer comme ça le faisait rire. Et il recommençait la chanson jusqu'à ce que je puisse plus retrouver ma... Et j'étais comme ça, c'est fou. Voilà. Et des choses comme ça. Après, il s'amusait souvent devant des invités à me mettre dans un état émotionnel qui me faisait pleurer. Et voilà. Bon. Alors, c'est une blessure. À côté de ça, c'était un homme extraordinaire, hein, et qui m'a beaucoup apporté. Mais à cause de ça, toute la vie, on peut rester bloqué par rapport à son père parce que il y a cette... Voilà. Et bien là... J'ai vraiment reçu, au moment où j'avais ces souvenirs qui remontaient, j'avais le regard de Jésus sur mon papa. Alors ça, c'est la guérison. Hein, comment Jésus aimait mon papa dans ce moment où il était un petit bourreau. Voilà. Et alors, dès que je suis rentrée chez moi, vite, il fallait que j'aille voir mon père. Et j'ai demandé, bah, raconte-moi, tu m'as jamais raconté, ta maman, tu l'as perdue, t'avais quel âge. J'ai commencé aussi à avoir de la compassion pour lui et à m'intéresser à lui. J'avais un autre regard. Et je peux dire qu'après, j'ai eu encore 20 ans de vie avec lui. Et heureusement que je ne suis pas restée bloquée avec cette histoire-là, parce que on a eu une communion spirituelle extraordinaire jusqu'à sa mort. Voilà, ça va?
Bon, alors, je vais, puisque j'ai, je vais donc, je vous donnerai, je ne vais pas vous donner le témoignage de ma guérison, de ma rencontre, de la guérison que le Seigneur a fait de ma féminité, de ma stérilité, etc. Parce que je vais le faire de samedi matin. Hein. Je pense que tout le monde sera là samedi matin.
Hein?
Bon. Alors on le fera en particulier tout à l'heure. Parce que je veux gagner du temps pour avancer, pour regarder un petit peu, vous voyez. Voilà, donc je voudrais qu'on avance un petit peu sur notre vocation d'épouse aussi. Parce que la femme est par nature assoiffée d'amour. C'est un abîme qui veut être rempli. Tout en elle est fait pour recevoir l'amour, je le disais tout à l'heure, pour en récolter le fruit. C'est vraiment dans la grâce de la femme d'aimer. Alors, hommes et femmes sont appelés à l'amour, hein, mais chacun d'une manière différente, dans une grande communion. Mais la femme, quelle va être sa spécificité? Alors, elle va devoir faire en sorte que cet amour soit toujours éveillé. Elle va avoir, parce qu'elle est très gâtée dans sa psychologie, on l'avait dit hier, on a cette anthropathie, cette faculté de deviner les sentiments d'autrui, on est très riche, on a cette intuition formidable, ce sera à nous à faire en sorte que l'amour soit toujours vivant, reste toujours éveillé dans le couple. Toujours, je disais ça dans une retraite pour femmes, et une femme avait 3 ans de mariage, et elle me dit, bah, tu vois, Béatrice, c'était vraiment un révélateur pour moi. Les 3 premières années de ma vie, c'est toujours moi qui prenais des initiatives. On pourrait faire ci, on pourrait faire là, etc. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et puis, je me suis croisé les bras, et j'ai dit, bon, et ben maintenant, à lui un peu. Hein. Bon. Et puis, rien n'est venu. Parce que l'homme est plus plouc, enfin, plus que c'est plus plouc. Il est pris par son travail. Oui,
il n'y a pas d'homme, parce que sinon, il ne va pas trouver ça drôle.
Je vais dire tellement de bien d'eux après. Il est pris par son travail, et donc c'est pas sa première priorité. Et il n'a pas cette intuition, oui, j'ai pas pensé, on pourrait aller au restaurant, on pourrait aller. Bon. Et c'est vrai que nous, il faut, tant pis, tant qu'on ne l'a pas éduqué, parce qu'il va falloir l'éduquer à toutes ses attentions, à ses petits gestes, ils vont changer, ils vont évoluer au fil des années. Mais en attendant, eh bien, nous prenons des initiatives. Et à tous les âges de la vie, l'amour, il doit être réveillé. Il faut qu'il soit vivant, cet amour. L'amour, c'est la vie, c'est la créativité. Notre Dieu est un Dieu créateur. Et donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous, les femmes particulièrement, on a cette créativité. Et il faut la mettre au service de nos couples ou des hommes que nous rencontrons aussi dans le monde du travail. Il faut prendre des initiatives, faire en sorte que cet amour soit toujours jaillissant, toujours renouvelé, comme un trésor qui nous est donné. Alors, l'homme, lui, on va le mettre gardien de la loi. Dieu lui a dit, tu mangeras tous les fruits, etc. Il reçoit, c'est lui qui reçoit de Dieu la loi. Il va être le soutien, le protecteur. Hein. C'est lui qui va aider à traverser les épreuves en redonnant toujours le cap. Moi, j'aime énormément mon mari. Des fois, je lui dis encore ce matin, je lui dis, tu vois, je te répéterai encore souvent ça. Rien que pour t'entendre réagir, qu'est-ce que j'aime t'entendre dire telle chose. Alors nous, c'est parce qu'on a beaucoup d'épreuves dans notre vie familiale avec nos enfants. Et là, je parlais du dernier enfant qui n'était pas adopté, hein, que nous avons pu avoir. Et c'est un enfant que j'ai eu malheureusement, j'ai été écrasée pendant ma grossesse. L'enfant a été écrasé et donc j'ai cru qu'il allait mourir. Il a dû sentir aussi l'angoisse de sa mère et il m'en veut à mort de ça. Il me dit, t'as pas été angoissée, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Mais comment voulez-vous qu'une femme soit pas angoissée quand un petit subit un pareil choc? Et donc après, à l'accouchement, un ou deux mois plus tard, ça s'est très mal passé. Et du coup, cet enfant est particulier, très différent des autres. Les choses se sont pas mises en place dans le bon ordre. Et il est hyper, hyper intelligent, mais en même temps très dyslexique. Donc, à l'école, ça a fait une opposition, le surdouement et la dyslexie. Donc, il ne s'est pas supporté à l'école. Donc, on a dû le déscolariser en 5e. Ça a été des galères et des galères pendant des années pour lui trouver des occupations, le désociabiliser, la drogue, etc. Tout un tas de choses qui se sont greffées là-dessus. On avait déjà eu d'autres enfants avec d'autres difficultés, beaucoup de drogue aussi, d'addiction, l'alcool et compagnie, avec des enfants adoptés. Mais c'est des enfants adoptés. Moins culpabilisant là, hein, ils ont des blessures d'abandon, mais quand c'est votre propre enfant, vous avez attendu dans l'amour, dans l'adoration, vraiment qu'il n'y a pas de blessure, on dit celui-ci, ça va marcher, quoi. Et puis ben non.
on tombe aussi encore sur quelque chose de douloureux et difficile, très très douloureux. Alors ce matin, je le disais à mon mari, et je lui disais, mais j'ai vu, parce qu'on est passé à Lille pour lui dire bonjour, et à son regard, premier regard, je vois tout de suite qu'il ne va toujours pas bien. Il vit avec le RSA, bon, il est très marginalisé, et j'ai vu que ça n'allait pas. Et mon mari, allez, avec son sourire, il m'a dit, mais Béatrice, il y aura un chemin pour lui, il y aura un chemin pour lui. Il me remet toujours dans le cap. Il me dit, mais tu sais, Dieu, il se régale à travers tout ce qu'on entend encore, tous ces témoignages. On voit bien que Dieu, il a tout préparé pour lui. Et simplement, il faut se croiser les bras et dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, comment tu vas te débrouiller pour cet enfant le sortir. Il a 27 ans maintenant. Et 27 ans de galère, comment tu vas le sortir de là? Mais être sûr qu'il va le faire. Et mon mari, depuis des années, pour tous mes enfants, il me remet toujours le cap, vous voyez. Donc l'homme, il est vraiment gardien dans l'espérance, et soutien et protecteur, vraiment. La force, c'est l'essence de l'homme, physique, mais aussi psychique, vous voyez. Et nous, on a besoin, il faut qu'on montre à l'homme qu'on a besoin de lui. Hein, là aussi, qu'il sache nous apporter quelque chose. Parce que nous, on est vulnérables. Nous, on a notre cycle, etc., nos émotions, nos machins, on est facilement submergés par nos émotions, et on a besoin d'avoir ce cadre, l'homme qui vient nous recadrer les choses, qui nous remet le cap sur les choses. Et voilà, et ce matin, je me disais encore, je me plains, enfin, je te dirai encore des choses comme ça, mes angoisses un petit peu de mère et tout, pour t'entendre me dire, non, Béatrice, Dieu s'occupe de cet enfant, pas un cheveu ne peut tomber de sa tête sans qu'il ne veuille. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut compter le nombre de cheveux qu'il a sur la tête? Tu sais combien tu as de cheveux sur la tête? Qui le sait? Un seul le sait. Le bon Dieu. Donc il faut vraiment, vraiment confiance. Plutôt que nous, on se dit, oui, d'accord, on se met des âges, on dit à 20 ans, à 25 ans, attends, puis après, voilà. Puis des fois, il faut se dire, ben, ça sera peut-être toute la vie comme ça, et peut-être sera au moment de la mort, il y aura un revirement complet, parce qu'on attend que nos enfants soient tous convertis. Et voilà, et là aussi, il faut se mettre aussi dans l'espérance, être sûr que Dieu s'en occupe, vraiment, qu'il ne laisse pas un instant ses enfants seuls. Il est tout le temps là, sa main paternelle est au-dessus. Voilà, donc le cœur de la femme, c'est vraiment la femme qui doit être le tabernacle de l'amour, vous voyez, être gardienne de l'amour, que cet amour puisse toujours grandir. Le père Marie-Dominique Philippe disait, elle doit être médiatrice dans l'ordre de l'amour pour éveiller toutes les capacités d'aimer dans le cœur de ceux qui lui sont confiés, les petits-enfants qui lui sont confiés, les voisins, les neveux, les nièces, si on n'est pas marié, tous ceux que le Seigneur met sur notre route, les infirmières qui ont des malades, voilà, éveiller l'amour dans le cœur de l'autre, toutes les capacités d'aimer dans le cœur de l'homme. Et puis réveiller dans l'homme aussi le désir de connaître Dieu, de l'aimer. Voilà, alors je voudrais vous parler aussi, regardez comment entrer dans la dynamique de l'amour avec notre caractère féminin. On a vu que la femme a été créée par Dieu pour l'homme, donc quel était son chef-d'œuvre, son couronnement. On ne doit pas avoir de complexe par rapport à ça, on a été créé en donné, on est le couronnement de la création, et on le voit réalisé dans la plénitude de Marie, ça nous décomplexe. Et c'est pour l'homme que Dieu a fait la femme belle. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre. Nous sommes belles. L'essence de la femme, très profondément, l'essence de la femme, c'est la beauté. Alors bien sûr, ça va être lié à l'amour, à la bonté, mais il a voulu que ce soit ainsi. C'est Dieu qui a fait la femme belle. Ça ne veut pas dire que l'homme ne soit pas beau non plus, puisqu'on est en connaturalité, mais il y a quelque chose dans l'éclat de la beauté chez la femme qui fait partie de cette complémentarité. De la grâce, tout à fait, fait partie de la grâce de la femme. Il y a cette capacité de séduction chez la femme, mais dans le bon sens. Nous, on voit toujours séduction. Ah, mais ça veut dire que c'est pour attirer à moi. C'est pour... Pas forcément. Au départ, quand Dieu nous a créés, il a mis cette capacité de séduction, au sens très profond, parce que c'était en vue de susciter un amour. On est belle pour susciter l'amour. Voilà. En vue de la réalisation d'un amour. C'est pour ça que dans un couple, très souvent, le premier amour est suscité par la femme. Et donc, je le disais, au fil des années, le rajeunissement de l'amour, il doit aussi se faire encore du côté de la femme. Quand vous allez arriver à mon âge, j'ai 67 ans, voilà, et bien, comment faire pour rajeunir l'amour, Et mon mari n'arrête pas de me dire, mais tu es ma petite fiancée, et il trouve toujours que notre amour rajeunit tout le temps. Donc, mais les femmes, on est grandement responsables de ça. parce que l'homme, encore une fois, là, c'est pas, on lui donne pas ça comme, c'est pas à lui de le faire, c'est pas à lui, mais c'est à nous, les femmes, d'être inventives, d'être créatives pour que cet amour soit toujours jaillissant. La femme doit réanimer constamment l'amour, pas comme une pile qu'on rechange, hein, mais au contraire comme une source, hein, qui doit envelopper le cœur de l'homme. Voilà, l'homme, il a sa stabilité, mais il est souvent plus timide dans l'ordre de l'amour, une certaine timidité. Donc, elle doit prendre des initiatives, je redis, hein, séduire, mais pour rajeunir, pour renouveler, pour réanimer, hein, prendre des initiatives, on retient ça. Voilà, alors notre vocation d'épouse, c'est d'offrir notre beauté, de la dévoiler. Et là, il faut sortir de nos complexes. Parce que nous, on a des. Le monde nous présente des critères de beauté. La beauté, c'est avoir tel trait, tel machin, telle mensuration, et tout ça. On nous met des top modèles qu'on a bien trafiqués avec Internet pour qu'ils soient dans la perfection, soi-disant. Mais c'est vraiment complètement nul. Et c'est pas ça du tout qui est beau. Hein. Qu'est-ce qui est beau? Je pense aux petits-enfants de Médiogorier qui ont demandé à la Vierge Marie, pourquoi elle était belle? C'est une drôle de question, c'est des pèlerins qui ont dû demander ça. Demande à Marie, pourquoi elle est si belle? Et alors Marie a répondu, je suis belle parce que j'aime. Voilà, quand on est dans l'amour, eh bien, quand on aime, voilà, n'allons pas chercher non plus à être aimé des autres, nous aimons, si on aime les autres, c'est ça qui va nous rendre belle. Je suis belle parce que j'aime. Il y a dans notre cœur vraiment un éclat dont le monde a vraiment besoin. C'est une essence, la beauté que toute femme porte en elle depuis l'instant de sa création. Ce n'est pas qu'un désir donc, de beauté extérieure. On désire être belle, on désire être captivante, mais dans les profondeurs de notre identité. On a envie de captiver. C'est très féminin, ça aussi. On veut captiver. Et ça, il ne faut pas en avoir de complexe. C'est normal. Et on a tout pour. Le Seigneur nous a donné tout ce qu'il fallait pour être captivante. Je me souviens de ma maman qui n'était pas belle du tout. Qui était jumelle, sa sœur jumelle était ravissante, et elle avait à l'époque un problème aux yeux, donc elle louchait, puis à l'époque on n'opérait pas, donc c'était pas très beau, hein, au milieu de la figure, c'est cet œil qui louchait. Moi je trouvais toujours que ma maman aussi n'était pas belle, j'avais pas la montrer à mes amis, parce que je trouvais qu'elle n'était pas très belle. Et en fait, c'était une femme qui rayonne complètement. Et alors moi, c'était avec mes yeux d'enfant, parce que je la comparais, tout ça, je me disais. Et elle est aimée. Alors, elle est sur un fauteuil roulant depuis 7 ans, mais elle a tout le temps des visites. Je voudrais bien avoir une vieillesse comme elle. Et elle me disait toujours, Béatrice, tu sais, il ne faut pas s'occuper de la beauté physique. Et elle me disait, moi, quand j'étais dans les soirées, tout le monde me faisait danser. Elle disait, parce que j'étais de bonne humeur et que je communiquais, je parlais aux gens, je m'intéressais aux gens. Voilà. Et avec son tempérament. Et alors, elle a eu une sœur jumelle, mais qui a eu une vie épouvantable. Et qui est morte bien avant elle, qui est déjà morte depuis quelques années. Et tout en se plaignant. C'était vraiment Jean qui rit et Jean qui pleure. Et mes petites cousines me disaient, mais vraiment, quelle chance vous avez d'avoir une maman comme ça, qui est toujours heureuse, qui n'a jamais de mal de personne. L'autre, elle se plaignait tout le temps. Et donc, on n'a peut-être pas la beauté physique, mais on s'en fiche. C'est pas ça qui attire. L'autre jour, je lisais une je ne sais pas si je l'aurais là. Ah oui, de François Chêne, qui est à l'Académie, en France, là, à l'Académie, qui est comment on appelle ça qui a été nommé à l'Académie là pour voilà, et il écrit des très très belles choses, et il a écrit des choses sur la beauté, cinq méditations je pense sur la beauté. Il disait, tout être étant unique, toute beauté est singulière. Il n'y a pas, je regarde vos visages, il n'y a pas deux visages qui se ressemblent, et ça c'est sur des milliards d'êtres humains. Vous imaginez, Dieu a fait des visages tous différents, et comme il nous a voulu, vous allez voir quand on va se retrouver au ciel, comme on va être ébloui de toute la beauté de chacun de nous, il n'y en a pas une qui sera plus belle que l'autre, hein. Toute beauté est singulière, il n'y a pas de canon de beauté auquel il faudrait tendre. Il dit que le canon de beauté, c'est un élément de la pensée grecque apparu lorsque la sculpture grecque a sombré dans l'académisme. Donc, or, la beauté et le charme naissent de la singularité. Et nous, on passe notre temps, toute notre vie à se comparer. Mais elle est plus belle. Elle a des beaux cheveux blonds. Elle a des cheveux qui tiennent. Elle est là, ci, elle est là, etc. Elle a des yeux bleus. On passe notre vie, nous, pendant des années. Alors, moi, j'ai plein de petites jeunes. Là, je je regarde. Les jeunes, elles sont toutes très, très belles. Ces jeunes. Je me dis, mais il n'y a pas une qui s'aime.
Elles se trouvent toutes moches. Et alors nous, avec du recul, on voit la beauté de cette jeunesse. Elles ont la jeunesse en plus et tout ça. Bon. Et alors lui, il dit, je trouve que l'un des plus beaux portraits de femme, alors j'ai été voir, est celui de la seconde épouse de Rembrandt. Alors j'ai été vite voir sur Internet. Qui était une femme relativement âgée. Relativement âgée. Son visage n'est plus très jeune. Elle a des rides et des formes très pleines. Voilà. Mais dans ses yeux transparaît une lumière de sensibilité, de bonté et d'accord avec la vie. Vous voyez que c'est bien au-delà de nos traits physiques. Hein? Sensibilité, c'est beau, hein? Sensibilité, une lumière de sensibilité, de bonté et d'accord avec la vie. C'est une femme comblée qui dégage une sorte de paix intérieure. Pour moi, elle incarne vraiment la beauté. Alors, vous pouvez aller la voir sur Internet. La deuxième femme de Rembrandt. François Scheng. Voilà. Alors la beauté, elle est un attribut de Dieu. Donc l'homme, il aura autre chose. Il va donner quelque chose de Dieu. Il va montrer quelque chose de l'essence de Dieu. Et nous, on va montrer la beauté de Dieu. Hein, c'est pour refléter cette beauté de Dieu. Donc n'ayons plus de complexe. Il faut la décliner, il faut la dévoiler, il faut l'offrir au monde, à ceux qui nous entourent. Commencez par y croire. À partir du moment où on y croit, on devient de plus en plus belle. Hein, on va, voilà. Si nous regardons autour de nous, tout chante la beauté, la générosité de Dieu. Bon, je disais, c'est ça. Le monde regorge de la beauté de Dieu. Et la beauté est peut-être la plus grande force sur cette terre. Hein, elle parle, elle invite, elle nourrit, elle console, hein, elle inspire. Elle inspire les poètes, elle inspire. Elle transcende, la beauté transcende. Combien de personnes n'auront jamais mis les pieds dans une église, mais auront fait un chemin uniquement par la beauté de la création. Hein, ils ont été attirés vers Dieu, hein, donc ils n'ont pas eu de témoins qui pouvaient faire rebondir ça, et donc ils en sont restés, ils sont restés à la porte de l'église, mais ils sont tout prêts pour accueillir, bien sûr, la beauté que va dévoilera Jésus dans le face, Dieu dans le face à face. Donc la beauté est transcendante, elle nous attire à Dieu. Hein, voilà. Mais au-dessus de la beauté de la création, il y a nous, et on est au-dessus. Donc on est vraiment le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Donc remercions Dieu, plutôt que de se regarder tout en disant « je ne suis pas belle, je ne sais pas si je ne suis pas là », remercions Dieu pour la beauté qu'il a mis en chacune de nous, qui est singulière et dont le monde a besoin. Le monde a besoin de chacune de nous, que nous croyions cela et que nous donnions cette beauté. D'accord ? Les obstacles, vous voyez, ce sera toujours voilà, notre regard sur nous. Bon. Alors, mariés ou célibataires, nous sommes appelés à entrer dans cette aventure de l'amour. C'est l'amour, bien sûr, qui va nous rendre belles. Cette aventure va s'approfondir, s'intensifier, se purifier jusqu'au plus haut degré qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La célibataire, elle va être appelée à donner sa propre vie en travaillant à la naissance et à la croissance d'une vie plus humaine. Et on en a besoin pour les hommes et pour les femmes de notre temps. C'est le même appel pour les consacrés. Et puis pour ceux qui sont mariés, eh bien là, ce sera deux libertés qui vont s'épouser. Hein, à travers plein de combats, il faut des années pour qu'on arrive à vivre vraiment l'harmonie, la complémentarité. Voilà. Mais derrière tous ces combats, il y a une grande récompense aussi pour arriver à cette plénitude.